Patrick Leglan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la recherche chez Société Générale Cross Asset Research. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés en ce début d'été. Peut-être un premier bilan quand même de semestre. Il a été relativement compliqué. On était bien parti, c'était une bonne année, on va dire, pour les marchés actions notamment. Il y a eu à nouveau un petit peu de crainte. Quel regard vous portez rapidement sur cette début d'année?
En fait, c'est un début d'année qui correspond véritablement à une rotation d'actifs. C'est-à-dire qu'en fait, tous les points de repère que les analystes, les gérants avaient finalement depuis quelques années, soit en termes de crise ou en termes de zone de croissance, finalement se sont inversés. Et c'est ce changement sur les grands équilibres fondamentaux, bien sûr, s'est reflété sur les actifs, entraînant une rotation d'actifs risqués à moins risqués ou autres. Je pense que nous allons en reparler.
Alors justement, on pourrait dire que les investisseurs étaient allés assez nettement sur les marchés actions. En tout cas, quand on regarde les indices, les volumes, c'est autre chose. Mais clairement, on sentait ces seins-là. Et puis finalement, on a à nouveau eu des craintes, alors plutôt liées à la politique monétaire, mais qui, quelque part, est la clé des marchés.
Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est assez intéressant parce que il y avait finalement les investisseurs voyaient d'un côté les marchés émergents comme l'endroit finalement où rien ne pouvait arriver, une croissance quasi assurée, et regardaient avec inquiétude finalement ce qui se passait notamment sur les États-Unis, avec peut-être des risques d'imprimer un petit peu trop de monnaie. Et on voit qu'en fait, finalement, les investisseurs aujourd'hui sortent des marchés émergents, avec notamment l'élément crise très sérieuse sur la dette corporate qu'on appelle high grade et high yield. Donc ça, c'est un premier point. Ont été dans un premier temps vers les États-Unis, qui bénéficient d'une croissance extrêmement forte. Et en parallèle, même si la conjoncture sur l'Europe reste difficile, on voit quand même une véritable amélioration ou un début d'amélioration des fondamentaux sur les périphériques. Donc on a un certain nombre d'investisseurs, finalement, on fait le chemin marché émergent avec peut-être un passage par les États-Unis, mais aussi vont faire vers des pays comme l'Espagne, l'Italie aujourd'hui, qui leur semblent présenter des points d'intérêt.
Donc on pourrait dire que effectivement leur schéma d'investissement s'est inversé et que alors qu'ils pensaient aller faire de la croissance en tant qu'investisseurs sur les marchés émergents, ils vont peut-être la faire aux États-Unis ou en Europe.
Tout à fait, tout à fait. Et alors en parallèle de cela, il y a aussi le fait que finalement l'autre classe d'actifs qui avait un fort attrait pour les investisseurs, c'était les matières premières. C'était l'or. Et là, il y a un double phénomène. C'est que finalement, le risque systémique, je veux dire, a quasiment disparu. Vous voyez que le risque d'inflation n'est pas non plus présent pour prendre un certain nombre d'éléments. Donc l'or a perdu, si je peux faire un mauvais jeu de mots, de son éclat. Et la baisse n'est peut-être pas finie. Et les matières premières, finalement, la Chine, c'est entre 30 et 40% de la consommation de matières premières, suivant les matières premières. Évidemment, avec une Chine qui ralentit, les matières premières baissent, certaines d'ailleurs étant proches d'un effondrement.
Un point peut-être sur ce qui s'est passé au Japon. Ça a été aussi un des événements des derniers mois avec cette politique monétaire très agressive, sans forcément de concertation. Enfin, c'est compliqué à y voir clair. Ça a eu un impact aussi sur beaucoup de flux d'investissement.
Oui. Alors en fait, il y a plusieurs points. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises par M. Abe, finalement, sont des décisions courageuses et nécessaires parce que le pays en a besoin. Donc, je dirais que dans un premier temps, ils viennent d'un niveau tellement bas en termes de déflation, de valorisation. Beaucoup d'investisseurs s'engouffrent, je dirais, dans ce soutien apporté par la Banque du Japon. Donc, ça, c'est très, très bien. Et ça n'est certainement pas terminé. C'est-à-dire, si je peux me permettre l'expression, M. Abe a encore des cartouches dans son jeu. Il va les sortir et ça devrait alimenter le marché. Après, quand même, quelques questions sur le Japon. Finalement, pour vraiment relancer l'économie et l'inflation, soit vous passez par une inflation financière, mais ça c'est un petit peu risqué, c'est un peu compliqué, puisque le pays est très endetté avec des taux qui sont toujours très faibles, ou bien vous essayez de relancer l'inflation par une vraie croissance, mais là il y a deux axes, c'est soit augmenter les salaires, et on n'y est pas vraiment, ou c'est avoir une consommation beaucoup plus forte, mais pour plus de consommation il faut de la démographie des consommateurs, et là on sait bien qu'il y a un problème vraiment structurel au niveau du Japon, d'autant plus qu'ils ne sont pas du tout favorables à mettre en place, je veux dire, une immigration, comme là dans certains pays européens comme l'Allemagne par exemple, qui elle aussi, un problème clairement de courbe démographique.
Donc, il pourrait y avoir d'autres sujets d'inquiétude pour le Japon, effectivement.
Alors, très clairement, nous, on pense que sur le Japon, il y a encore certainement un peu de hausse à gagner au fur et à mesure que des mesures seront annoncées. Mais nous craignons qu'à un moment ou un autre, je dirais, le livre de la réalité s'ouvre et qu'on s'aperçoive qu'en fait, par rapport à ces problèmes fondamentaux, il y a un vrai sujet. Et ça pourrait peut-être venir, je dirais, peut-être fin d'année ou début 2014. C'est-à-dire, ça va venir assez rapidement.
Alors, si l'on revient sur les États-Unis, clairement. Bien sûr, la politique de la réserve fédérale américaine, les investisseurs la suivent de très près. On voit et on entend qu'il y a des divisions d'ailleurs au sein de la réserve fédérale américaine entre ceux qui voudraient que ça se termine, on va dire, plus vite, peut-être fin d'année, effectivement, ce quantitative easing. On a vu cet effet en tout cas sur les marchés très 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 fort. Est-ce qu'on peut, alors on dit ne pas se battre contre la réserve fédérale américaine, est-ce qu'on peut comprendre ce qu'elle est en train de faire?
En fait, je crois qu'il y a deux éléments simples. Le premier, c'est que la reprise américaine, je pense, est plus forte peut-être que ce que les marchés prennent en compte aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point, je vais y revenir. Et le deuxième point, c'est que la Fed a toujours dit, en prenant la terminologie anglaise, qu'elle serait lagging. C'est-à-dire qu'elle serait, elle ne réagirait pas tout de suite, elle laisserait l'économie repartir. Donc en fait, je pense que la Fed aujourd'hui, elle voit les indicateurs qui s'améliorent très fortement. Donc elle sait que de toute façon, elle va arrêter le quantitative easing. Mais comme elle a envie d'être un petit peu en retard pour laisser la possibilité à l'économie américaine d'accélérer, c'est pour ça qu'elle joue un peu un double discours. Maintenant, sur les fondamentaux de l'économie américaine, deux points. Les coupes budgétaires impactent la croissance américaine d'environ 1,75% en 2013. C'est-à-dire que tous les chiffres que vous voyez de PNB américain, il faut rajouter plus 1,75%. Donc c'est-à-dire que la croissance, elle est très forte. Et deuxième point, on a eu pour le troisième mois consécutif des non-farm payrolls, c'est-à-dire des créations d'emplois qui étaient supérieures aux attentes, d'environ 50 000 emplois. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on dissèque ces chiffres, on s'aperçoit que ces chiffres ont été tirés principalement par ce que j'appelle les secteurs plaisir, c'est-à-dire les bars, les restaurants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre maintenant dans une période où les Américains recommencent à avoir envie de se faire plaisir, et c'est plutôt bon signe sur la confiance des consommateurs américains, ou du moral américain sur la croissance.
Alors c'est clair qu'on en est loin en Europe sur ce retour de la confiance. En termes d'investissement, effectivement, sur les marchés européens, l'Allemagne, clairement, reste en tête. Est-ce qu'il y a des opportunités malgré tout? C'est-à-dire qu'on a senti que les investisseurs étaient revenus, justement, pour parler des risques moins importants, ou peut-être la politique de Mario Draghi, effectivement, les investisseurs sont revenus sur ces marchés européens.
Oui. Alors déjà, je voudrais revenir sur un point mentionné qui est intéressant. C'est que c'est vrai que l'Allemagne, aujourd'hui, bénéficie d'une excellente image. Mais nous, à la Société Générale, on considère qu'on est peut-être, l'image est peut-être un petit peu surfaite. C'est-à-dire que l'Allemagne commence à vraiment ressentir la crise, à la fois au niveau conjoncturel et au niveau structurel. C'est-à-dire que l'Allemagne, la semaine dernière, on attendait une hausse de la production industrielle, elle a baissé de 2%, et ça, c'est pas le premier mois. Deuxième point, finalement, l'Allemagne, on se dit, elle est très très compétitive. Mais le coût horaire moyen en Europe, il est de 28 euros de l'heure, au niveau salarial. En Allemagne, il est à 31 euros, la France 33. Et en face de ça, vous avez l'Espagne qui est à 20 ou la Grèce qui est à 16. C'est-à-dire qu'on voit les périphériques qui ont fait un travail considérable. Et dernier point, l'Allemagne, oui, a réduit son déficit public proche de zéro, mais la dette, elle, continue à monter de 75 à 80% parce qu'il n'y a pas de croissance. Donc on est prudent sur l'Allemagne. Maintenant, sur les périphériques, on voit en effet que les actions qui ont été menées par la Banque Centrale Européenne ont permis à la fois d'arrêter le risque systémique et de réduire ce qu'on appelle la fragmentation, c'est-à-dire la transmission de la politique monétaire au marché financier. C'est-à-dire que les taux commencent quand même progressivement à se resserrer, à s'unifier sur la partie courte, sur la partie longue, même si ça n'est pas encore parfait. Donc les opportunités, on les a sur l'Espagne, sur le Portugal, dans certains cas, pourquoi pas, certains secteurs sur la Grèce, où finalement on a des secteurs qui cotent 30-40% en décote sur l'actif net. C'est-à-dire qu'en fait, vous payez un tiers d'un actif qui a déjà été très fortement déprécié. Alors oui, des incertitudes sur la conjoncture. Donc si je prends une casquette d'économiste, je veux dire, finalement, la conjoncture reste très difficile et on est encore à un niveau très 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 bas. Si je prends une casquette de stratégie, je vous dis le pire est peut-être passé et donc on est peut-être sur des niveaux d'investissement.
En conclusion, peut-être sur la manière d'investir dans ces périodes, certains disent oui, ça va être un peu de la tôle ondulée, donc il va falloir être prudent, mais en même temps peut-être saisir des opportunités. Comment va évoluer la stratégie justement d'investissement en Europe, mais aussi aux États-Unis?
Écoutez, nous, la remontée des taux aux États-Unis, et nous anticipons 3,5% en 2014, ne devrait pas empêcher le marché de continuer à monter, sous réserve qu'il y ait de la croissance. Et c'est bien le cas. Donc, on est positif sur les États-Unis, mais on préfère l'Europe, parce que quelque part, s'il y a reprise aux États-Unis, un environnement un peu plus favorable, l'Europe va en bénéficier, et les valorisations européennes sont tellement faibles que donc on privilégie l'Europe. On est très négatif sur la dette corporate high grade de qualité, high yield de moins bonne qualité. On est prudent sur les emprunts souverains, c'est-à-dire qu'on n'attend pas des fondements de krach obligataire, mais c'est vrai qu'il y aura certainement des prises de bénéfices. On est négatif sur les matières premières à cause de l'Asie. On est négatif sur l'or et on pense que sur le Japon, il y a encore un petit peu à gagner. Voilà, je dirais nos thèmes principaux.
Merci d'avoir fait le point avec nous. Donc, nous étions ensemble à Paris Europlace. Patrick Legland, après, vous êtes donc responsable de la recherche chez Société Générale Cross Asset Research.
Didier, merci beaucoup de m'avoir invité.